vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Nicolas Benita.
Bonjour, bonsoir. Cela fait plus de 30 ans et plus de 40 albums qu'ils travaillent ensemble avec une méthode singulière. Eric Warneau écrit, Guy Reeves apporte les couleurs et tous deux dessinent à quatre mains des récits souvent émouvants et ancrés dans une époque et dans des décors réels. En marge de la sortie du dernier tome de leur série Purple Heart, le tandem présente une nouvelle version de l'album Liberty, sorti en 2010, du Kinshasa de 1974 au New York contemporain, du combat Foreman-Mohamed Ali au discours de Chicago de Barack Obama, les deux compères nous relatent 40 ans de la vie d'une mère et de sa fille, dont les difficultés, les rêves et les espoirs rencontrent les aspirations de toute une génération d'Afro-Américains sur fond de racisme et de ségrégation au diapason d'une black music festive et engagée. Liberty est paru aux éditions du Lombard et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Pourquoi ressortir Liberty 13 ans après ?
C'est venu de mon fait. C'est-à-dire que en 2021, j'ai vécu une période un peu difficile. Mon papa a demandé l'euthanasie. Donc dès qu'on a eu la date de décès, qui durait de 8 semaines, il fallait que je m'occupe intellectuellement. Donc j'ai remis la main sur les fichiers de Liberty, qui étaient au format original. Et ça a démarré comme un jeu intellectuel, juste un remontage de faire d'une page, deux pages. Et puis, de fil en aiguille, j'ai passé mes nuits à ça. Et puis, quand j'avais fait les trois quarts, j'ai proposé à Eric, qui trouvait le remontage intéressant, que ça donnait une dynamique et une nouvelle relecture de cet album. En plus, ici, les dessins ne sont pas réduits, ils sont au format original, dans 90% des cas. Et voilà, on s'est pris au jeu, et à ce moment-là, c'est devenu une réalité, c'est devenu une nécessité.
Voilà. Ça veut dire quoi, un remontage, exactement ? Parce qu'on passe quand même de 60 à 120 pages, quoi. Donc on change de format.
Oui, le format est plus petit, donc le format original de scan était au format de plus qu'à 3. Donc en passant sur un plus petit format, je n'ai pas besoin de réduire les cases. Et d'une page, j'en faisais deux en moyenne, et puis, enfin, en fonction de la dynamique de la page. Et ça donne une lecture plus lente, quelque part, qui est peut-être plus proche du thème, et qui est plus proche aussi d'une lecture actuelle dans les romans graphiques. Et ça amenait une sorte de vérité, je trouvais, au récit. Quoi.
Mais il n'y a pas de rajout de cases, Eric Warneau, ça.
Non,
rien n'a changé. C'est juste l'agencement,
oui, c'est l'agencement
qui est différent. Donc le rythme de la narration, et cette narration, on va peut-être en parler dans un instant, elle n'est pas strictement chronologique. Ça, c'était aussi dans l'album de départ.
Ça, c'était dans le côté départ. Et ce que je peux rajouter aussi, le fait, c'est que c'est aussi un album qui a, et les critiques le soulignent, ça nous a fait plaisir, qui n'a pas vieilli. Ça fait plaisir, 10 ans après. Et puis, malheureusement, par contre, qui est encore d'actualité, on l'a vu. Je ne vais pas rappeler les choses qui sont passées depuis.
Bien sûr.
Mais c'est encore d'actualité et tout. Tout ce problème-là, c'est ce que j'explique à mes filles. Il faut être patiente parfois avec le monde. Il faut attendre que les mentalités bougent. Et ça ne bouge pas aussi vite qu'on le veut. Mais ça bouge. Moi, j'y crois.
Alors, nouvel éditeur aussi, hein, puisque l'album original était paru chez Casterman et maintenant vous êtes aux éditions du Lombard. Nouvelle couverture aussi. Alors là, il y a un petit jeu de miroir inversé.
Et puis il y a le fait qu'à l'époque, chez Casterman, ils nous avaient demandé de faire un ciel mécanique, parce qu'ils trouvaient que la première version, qui est celle originale, enfin qui est maintenant chez Lombard, était trop dans les tons camailleux. Et alors, on a cédé à l'époque et on n'aurait pas dû.
Voilà, alors, décrivez-nous, messieurs, la nouvelle couverture fait une sorte de comparaison. On n'est pas dans le jeu des 7 erreurs, mais seulement un miroir inversé. Il y a quelques détails qui ont changé. Hein.
Il y a quelques détails, c'est-à-dire que la couleur a changé. Le détail du dessin n'a pas changé, il était inversé, simplement. Le personnage, maintenant, regarde vers l'avenir, alors qu'à la limite, il regardait vers le passé, côté Casterman.
Vous avez changé de profil, pour le coup.
On a changé de profil, puis le ciel a changé. Maintenant, c'est le ciel de l'original, donc, qui est fait à l'aquarelle et qui est dans un camailleux. Donc, je trouvais ça plus chaud, plus proche. Et puis ça, je l'ai rescanné, donc je trouve que les couleurs sont plus belles que le scan d'origine.
Voilà, et le personnage que l'on découvre donc sur la couverture, cette femme de profil avec les jambes effilées, à la coiffure afro style Jackson 5, habillée de vert, ouais. Menton volontaire, port de tête fier et altier, avec qui semble porter son ventre de femme enceinte en étendard. Vous pouvez nous dire quelques mots sur le personnage? Comment s'appelle-t-elle
C'est la maman, donc c'est Chilonda, c'est ça?
La maman de Liberty.
La maman de Liberty, et c'est le moment où elle vient d'arriver à New York, donc où elle prend possession de sa vie, voilà, et de son corps, et de cet enfant, et donc c'est ce qui amène la position de la maman à ce moment-là, et les motifs et tout, c'est les époques, c'est fin des années 70, quoi, donc voilà. Donc,
C'est une femme forte, hein, c'est une femme, c'est pas par hasard quand j'ai repris le Cantique des Cantiques du début,
oui, hein, absolument.
Quand on dit qu'elle est cette femme qui arrive, belle comme la lumière, belle comme le blablabla, mais terrible comme une armée. Prête au combat, et c'est ça qu'elle est.
Et c'est vrai que c'est ce caractère-là, hein, voilà, qui se dégage tout de suite.
C'est ce que
façon
je voulais que ce passage-là, c'est pas par hasard qu'on l'a mis, soit présent, parce que d'abord le texte est très beau, le Cantique du Cantique, c'est un poème qui est bien écrit, et c'est vraiment le personnage, quoi. C'est vraiment terrible comme une armée au combat. Et c'est aussi, mon épouse est pareil. Voilà, c'est des personnes qui ont une manière de vivre, de voir la vie, et aussi de par d'où elles viennent, de par leur passé, de par les différences culturelles. C'est peut-être des choses différentes. Mon épouse est d'origine aussi africaine, zaïroise, née au Zaïre, née en Bougimaï, mais a vécu à Kinshasa. Et donc, il y a une position, une façon de vivre qui me plaît et qui est parfois plus, comment dire, c'est peut-être moins défaitiste que nous, on va dire ça.
Alors, votre récit débute en 1974 à Kinshasa sur une musique de James Brown qui résonne d'ailleurs parfaitement, je trouve, avec la tonalité de cette illustration de couverture. I'm black, I'm proud, criez-le, je suis noir et je suis fier, exhortait James Brown à la foule qui lui répondait, hein. James Brown en concert donc à Kinshasa dans le Zaïre de Mobutu en 1974. I'm black and proud, c'est le titre du premier chapitre de l'album Liberty que Warnotz et Rêve, qui sont avec nous, publient aujourd'hui aux éditions du Lombard. Et tout le récit naît en marge d'un moment qui a marqué l'histoire avec un grand H, le fameux combat de boxe entre George Foreman et Mohamed Ali, donc dans cette ville de Kinshasa en 1974, dans ce Zaïre dirigé par le maréchal Mobutu, un duel de poids lourd, Battle in the Jungle, disait-on à l'époque, un duel auquel James Brown et ses musiciens sont venus justement assister, d'où le concert. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le concert et le match sont l'occasion en amont, pendant et en aval d'une gigantesque fête populaire. On est dans un événement hors norme, petite archive télévisée de l'époque.
Atmosphère de fête populaire à Kinshasa, capitale du Zaïre, à l'occasion du combat de l'histoire opposant Mohamed Ali au tenant du titre mondial des poids lourds, George Foreman. Ce nouveau combat du siècle est effectivement entré dans le domaine de l'histoire africaine. Ce fut un très beau cadeau offert au Zaïre et au peuple africain tout entier par le président de la République, le citoyen Mobutu Sese Seko. D'ailleurs, ce championnat du monde, hors du commun, fut une excellente affaire de promotion touristique, mais aussi et surtout une affaire politico-sportive. Ali avait avoué son ambition. En venant combattre, ici au Zaïr, il souhaitait être un élément précurseur, celui qui allait ramener au bercail tous les Noirs américains des États-Unis. Ali devenait ainsi un symbole. De plus, il se sent depuis toujours investi d'une certaine mission sur Terre. Il en est persuadé. Allah est avec lui. Cette mise en condition psychologique a fortement influencé le résultat du match. Les Zaïrois n'ont jamais eu qu'un seul favori, Mohamed Ali. On le sentit bien au stade du 20 mai. Clay fut ovationné, son adversaire, tout aussi noir que lui, fut constamment sifflé. Sur le plan sportif, le combat fut très moyen. Le quotidien Zaïrois et Lima, dans une édition spéciale titre, Ali n'a pas dansé, Foreman n'a pas cogné, ce fut un combat sans spectacle qui a déçu le public. À mon avis, on peut difficilement associer les mots de spectacle et de boxe. C'est aussi sous-estimer l'exploit réalisé par un homme de 32 ans qui reprend son titre mondial après l'avoir perdu injustement en 1967. C'est enfin nier l'intelligence, la science pugilistique d'un Cassius Clay qui vole, vous le savez, comme un papillon et pique comme une abeille.
Voilà, et cette dernière expression, vous la reprenez d'ailleurs un peu plus tard dans l'album, en clin d'œil, dans une autre scène, hein, Warnot Serev. Alors, ce combat du siècle, hein, vous le dessinez sur deux doubles pages. Dans l'album, vous avez plongé dans les archives, vous êtes allé voir les images télévisées de l'époque.
Oui, tout à fait. Ouais, tout est documenté, non, tout à fait, à ce niveau-là, on fait attention, parce que c'est un match aussi où Ali est continuellement dans la corde, où il subit les coups de Foreman. Et il tient la distance, donc il le fatigue. Et puis il le fatigue, et puis il arrive finalement à le battre en finale. Quoi.
Voilà, il se réveille finalement.
Mais c'était une volonté de départ. Hein,
C'est une leçon de boxe.
C'est la stratégie, en fait.
C'est ce qu'il a dit, je vais donner une leçon de boxe, et c'est ce qu'il a fait. Puis moi, je l'ai vu, je l'ai vu légèrement différé, mais je l'ai vu à l'époque.
À l'époque. Je m'en souviens. Ouais. D'accord, mais alors justement, comment est-ce que ça se matérialise, graphiquement parlant, la force d'un coup de boxe? Comment est-ce que vous faites sentir au lecteur qu'il en prend plein la poire, quoi, le personnage?
Il y a l'effet ici qui est donné avec la sueur et le mouvement des coups. Et puis il y a la tension dans les poings, dans les bras. On essaie de jouer avec ça. Plus jouer avec les diagonales des cordes qui ramènent aussi une dynamique qui peut faire penser... voilà, c'est pas évident. Qu'est-ce qui fait qu'un dessin tient ou pas
Moi, je trouve qu'il y a une dimension très, très allégorique, finalement, dans la façon dont vous mettez en scène cela. Alors, ça se voit donc, dans la première double page, avec vraiment les scènes de coups de poing, les scènes de combat proprement dites. Sur la deuxième double page, on a un peu l'impression que vous avez fixé une caméra au plafond. Donc, c'est vraiment une case complètement en plongée qui prend la totalité de la planche, de la page de gauche. Et puis, sur la planche de droite, et je voudrais que vous commentiez ce dessin-là. Là, pour le coup, on est clairement dans une allégorie, là, pour le coup.
Oui, là, c'est clair.
Ouais, puisque alors décrivez-nous, puisqu'on est à la radio.
C'est-à-dire qu'on voit le stade, donc c'est le stade des Martyrs, je pense, à l'époque. En tout cas, c'est le stade principal de Keane, à l'époque. Je crois que c'est comme ça qu'on l'appelait. Et dans le cœur, enfin, qui est devenu Caprice, non, là, après. Et puis, on voit deux personnes. Alors, si je ne me trompe pas dans les noms, c'est les deux... coureurs de 100 mètres qui avaient couru à Mexico et qui ont levé le point noir. Donc c'est ça qu'on met, on le remet.
Oui.
C'est-à-dire c'est ce qu'on met aussi, c'est qu'à un moment donné, Foreman...
Smith et Carlos.
Voilà, c'est ça, je cherchais Smith et Carlos, qui eux avaient osé mettre... ils l'ont payé, hein, ça, parce qu'on les a vraiment blacklistés après, avec le point noir. Image que j'ai vue aussi à l'époque.
C'est une image très politique.
Ah, c'est clair, complet.
Complètement. Hein.
Ce match était politique. Hein. C'est aussi la volonté de Mobutu. Donc, c'est amener la fierté noire américaine sur le continent noir. C'est l'époque. Hein, on est toujours dans Black Panther. C'est le retour à l'Afrique. C'est le retour à l'africanité. Enfin, donc, on est dans ce contexte. Quoi. Donc, c'est vraiment pour marquer ça.
Et c'est ça. Effectivement, dans l'opposition aussi, Foreman, il y avait Cassius Clay. On connaissait son engagement politique, qui était plutôt justement Black Panther, c'est-à-dire le côté noir, mouvement afro-américain, un réveil. Et de l'autre côté, Foreman, qui s'était, comme j'ai dit, enroulé dans la bannière américaine, donc qui était, voilà, le côté, c'est pas c'est pas pour rien non plus que effectivement il y avait une prise de position en faveur de Mohamed Ali qui était quand même plus clair en quelque sorte. C'était ça peut-être le paradoxe. Si on regardait les deux des deux côtés, il y en avait un qui était clairement qui avait peut-être plus une couleur de peau qui aurait plus pu inciter à ce que il y a une identification à ce personnage-là, mais c'est allé vers Mohamed Ali pour ces raisons-là.
Alors, et c'est dans ce contexte que l'on découvre Chilanda, qui à ce moment-là est la fille, encore jeune, du chef de la sécurité de l'hôtel de luxe dans lequel séjournent les musiciens qui accompagnent James Brown. Alors, quand on la découvre, elle a 16 ans, le regard des hommes commence à se poser sur elle, et deux personnages de l'entourage de James Brown vont faire basculer son destin. Le premier, c'est un salaud, il s'appelle Alan, il est blanc, il est manager, il va prendre son innocence, il va la violer, il va la mettre enceinte. Le second, c'est un type bien, il s'appelle Mike, il est noir, empathique, elle va se confier à lui, il va la soutenir, il va garder le secret, il va devenir son ami. Chilanda, Alan, Mike, trois personnages liés donc à un événement réel, trois personnages purement fictifs.
Il y a une part de vérité, c'est qu'Eric a rencontré une jeune Africaine qui, elle, n'a pas vécu un destin aussi tragique, mais dont le père était chef de la sécurité aussi, et qui a, elle, eu un rapport avec un Blanc qui était un peu son protecteur. Donc là, il y a des choses qui lui ont été racontées. Qui sont
et le lien avec l'entourage de James Brown, il est avéré ou bien vous l'avez complètement inventé pour le coup?
Nous, de ce côté-là, on l'a inventé.
Ça, c'est inventé. Mais il y avait un jeune manager qui n'est pas celui-là. Après... C'est là où la fiction vient, dans l'histoire. Par contre, la première rencontre qu'il y a entre... Parce qu'il y a le personnage dont vous parlez, puis il y a aussi un diplomate français, qui est là, blanc, plus âgé, et qui va aussi avoir un côté un peu paternel par rapport à... Et ça, c'est quelque chose qu'une amie congolaise m'a raconté. À un moment donné, elle-même ayant vécu, étant la fille d'un ancien... commandant de la garde présidentielle qui s'était recyclé en étant à la protection dans un hôtel et tout. Et donc, c'est un souvenir. C'est-à-dire que je pars d'une anecdote, c'est à un moment donné, avec le fait qu'à un moment donné, elle va passer une soirée avec cette personne plus âgée, où ils vont avoir, mais à distance, évidemment, prendre un repas à distance, ne pouvant pas, évidemment, la différence d'âge et le père qui, évidemment, c'est impossible qu'il y ait un lien comme ça. Et donc, le début, ça part d'une anecdote, quoi. Donc ça, c'est souvent que ce qu'on fait, c'est... On entend quelque chose et puis on se dit, tiens, ça, c'est quelque chose qui est assez... qui pourrait fonctionner, qui fonctionnerait bien au niveau narratif et tout, qui pourrait donner un début d'histoire.
Alors, ce qui est formidable avec cette nouvelle version de l'album, c'est le cahier graphique qui se trouve à la fin. Ce sont aussi les pages de garde de chacun des chapitres qui, eux aussi, présentent des crayonnés. On voit peu à peu les différents personnages prendre forme sous le crayon des dessinateurs. Quelques mots pour commencer sur Chilanda. Comment est-ce que vous avez défini les traits et les caractéristiques physiques du personnage?
On est parti de la femme d'Eric Jeune.
Voilà, c'est un bon point de départ. Voilà, alors, pour le coup.
Ça permettait d'avoir une base.
Voilà. Mais c'est important, justement, de partir d'un personnage réel, d'une photo, enfin, de vous accrocher à quelque chose. On n'invente pas un personnage comme ça, ex nihilo, ça tombe pas du ciel.
C'est quand même très réaliste. Donc, si on ne veut pas retomber dans des schémas qui sont récurrents, il est bon de partir de photos, d'acteurs ou quoi. Et puis après, on se les accapare, on en fait autre chose. Mais on part souvent d'une base... Pour ne pas tomber dans un cliché, quoi.
Et stress, oui. Ouais, puis
on l'a en tête, quoi. C'est ça que je veux dire. À partir du moment, ben, comme dit Guy, moi, il y avait les photos où je la voyais avec ses petites jambes toutes fines. Voilà, c'est avec ses sœurs, avec le papa, enfin, les photos de famille où je la vois. Donc, moi, j'avais vu ça. Donc, je me dis, ben, je vais la faire comme ça. Je vais la dessiner comme on la voit au début, un peu comme je mis comme un... comme une graine poussée.
Voilà, ouais, complètement. Mais c'est intéressant que vous parliez des jambes. C'est vrai que vous focalisez beaucoup. Il y a des cases qui sont justement centrées sur les jambes, sur ses pieds nus. Oui. Aussi, c'est vraiment très, très important. Ce sont des éléments physiques qui caractérisent peut-être autant le personnage que ses yeux doux, sa bouche sensuelle ou ses cheveux courts, quoi. Les pieds, les jambes.
Ouais. Oui, parce que ça fait partie du corps et que ça peut aussi être symbolique. Dans la case dont vous parlez avec les pieds, ben on voit que c'est au moment où le blanc dont vous parlez, le manager, le jeune manager s'approche d'elle, et on voit bien dans les pieds qu'elle recule, en fait, qu'elle n'est pas en avant, elle est en train de se mettre en arrière, et que déjà elle a senti qu'il y avait menace, quoi.
Oui. Donc, et donc on est déjà dans l'expression de quelque chose, même si on ne voit pas finalement, non, voilà, le peut-être le plus choquant. Alors Mike, le troisième personnage, donc le personnage noir, qui est le batteur, hein, qui accompagne James Brown dans votre récit, lui aussi, il porte une personnalité très forte sur son visage. On a l'impression que bon, il a les sourcils en particulier sont très volontaires. Il a un nez busqué, il a des petits yeux. On voit tout de suite, rien qu'à son visage, qu'il sait où il va. Quoi. C'est un homme qui a un sacré caractère, quoi.
Oui, je pense que c'est un personnage. Bah, il a un passé aussi qui est pas évident.
Il a
passé
c'est un homme de combat, il a fait le Vietnam.
Il a fait le Vietnam, pas parce qu'il a choisi, parce qu'il était dans une catégorie d'âge et de population qu'on envoyait au Vietnam. Et il y est allé à son corps défendant, mais il est allé. Et donc, il en est revenu, il est marqué. Aussi,
il a parfois des yeux un peu tristes. Hein. On voit effectivement dans son regard qu'il y a quelque chose qui s'est cassé.
Ouais. Il y a ça, et puis on ne le cache pas. À un moment donné, il a donné dans la drogue, donc il va le donner de plus en plus. Mais on voit bien qu'à un moment donné, il est là-dedans. Il revient du Vietnam, et à un moment donné, il parle avec une des personnes qui gère un des bureaux des Black Panthers, et elle lui fait le reproche. Elle lui dit, mais écoute, tu ne peux pas être à la fois membre du parti, et en même temps, être en train, chez nous, on ne veut pas. Ce côté-là, drogue, on sait que vous qui revenez du Vietnam, vous avez ce souci-là, mais faites attention et tout. Donc il est marqué déjà parce qu'il a ce problème d'addiction.
Voilà, et Mike va faire venir avec lui Chilanda aux États-Unis. Il va lui obtenir une green card. Et cette information qui est très importante pour le récit, puisque c'est ce qui va permettre à Chilanda de traverser l'Atlantique et de se retrouver à New York, information donc capitale. Eh bien, en fait, vous la donnez dans un petit cartouche narratif en dessinant un gecko, donc un immense gecko vert. Alors, il y a deux cases qui prennent à peu près la moitié de la page dans l'album. Pourquoi ce gros plan sur le gecko à ce moment-là? C'est un jeu de mots entre la green card et le vert gecko?
Est-ce
que vous êtes allé chercher une idée pareille?
C'est pas un gecko, c'est un caméléon.
Ah, c'est un caméléon, vous voyez, comme quoi il faut que je révise ma zoologie.
L'idée, c'était ça aussi, c'était le personnage qui peut changer de couleur, changer d'aspect. Donc il y avait ce double jeu, et c'était plus intéressant, puisque en gros, c'est Mike, mais aussi c'est le français qui fournit la green card. C'est une sorte d'agreement entre eux deux. Ils vont s'occuper de Chilanda, eux deux, ils vont gérer l'après.
Et l'image du caméléon, alors comment l'idée vous est venue?
Parce que c'était... d'abord, c'est très présent à Kim, et puis il y avait ce côté un peu personnage qui n'est pas toujours de la couleur qu'on voudrait. Donc,
il est ambivalent aussi. Voilà. C'est un personnage un peu ambivalent, parce que quand on le voit, comme il le dit, il est séduit par, à ce moment-là, en tout cas, par Chilanda. Et après, jusqu'où il est prêt à aller, on ne le sait pas trop. Quoi. Donc on voulait montrer qu'il y a une ambivalence et que ce n'était pas non plus un personnage qui est clean. Et on va le voir après, on le sent bien. On sent qu'il a ses propres démons qui viennent du Vietnam. Et il les a en lui, donc on ne sait pas trop à ce moment-là, quand il en parle, comment il va s'occuper de Chilanda, si c'est juste par intérêt, on ne sait pas trop à ce moment-là.
Respect, Aretha Franklin, évidemment, dans VMDN sur RFI, une émission autour de la nouvelle version de l'album Liberty signé Eric Warnotz et Guy Rêve à découvrir aux éditions du Lombard. Alors, tous les titres de chapitre reprennent des titres iconiques de la black music. Il y en a un, effectivement, qui s'appelle Respect. Comment est-ce que vous avez choisi les chansons, en l'occurrence ? Il faut dire que vous êtes assez fan des années vinyles, je crois.
Oui, bien sûr. Bah, on a l'âge, hein. Donc, il y a ça. Bah, c'est un peu des incontournables, hein, que ce soit ça, en black and white. Enfin, voilà, on les a pris dans le temps. On a repris, on a remis Bob Marley, qui n'est pas vraiment, c'est pas l'Afrique, mais c'est quand même Bob Marley, c'est Survival. Et voilà, donc ça me paraît évident, les titres. Mais...
Alors, je l'ai dit en introduction, vous êtes un tandem complètement à part, quand même, Eric Warnotz et Guy Rêve, ça fait 30 ans déjà que vous travaillez ensemble, ce qui est déjà une, en soi, c'est pas mal, c'est une assez grande longévité. Comment vous êtes rencontrés, d'ailleurs, tous les deux?
Par des amis communs. Moi, je faisais les beaux-arts, lui faisait notre école d'art, et puis à l'époque, il y avait le service militaire.
Oui.
Donc, quand moi j'ai eu terminé mon service militaire, j'étais au chômage, j'essayais de démarrer dans la BD. Et à ce moment-là, Eric avait déjà des contrats chez l'Écho des Savanes. Et il fallait l'aider à faire les couleurs, parce que lui, il faisait service militaire. Et l'Écho des Savanes ne devait pas le savoir.
Oui, donc, on a commencé... pas tout à fait la même crèmerie.
Voilà, on a commencé comme ça. Et puis, de fil en aiguille, il a commencé à m'écrire un scénario. J'ai fait un premier album. Et puis, on s'est rendu compte que c'était plus agréable de travailler à deux. Et on fait ça depuis 85.
Oui, justement, est-ce qu'après une quarantaine d'albums et plus de 30 ans après, est-ce que vous parvenez encore à vous surprendre mutuellement ?
Et c'est le but du jeu, sûrement. C'est que malgré le fait qu'on travaille depuis longtemps ensemble, toutes les semaines, je récupère du travail d'Eric qui a bougé sur mon travail. Donc toutes les semaines, mon travail évolue. Et c'est là... Pour moi, c'est la force de notre duo. Quoi.
Alors, comment est-ce que vous fonctionnez ? Vous répartissez les séquences, chacun travaille de son côté, vous échangez les pages, parce que vous dessinez tous les deux. Ça, c'est important.
On élabore tout à deux. Donc, ça peut prendre parfois des années pour se mettre à faire un scénario. Et puis, après une discussion, souvent, c'est devant un Orval, et on discute dans un café, et de la séquence qui va venir.
C'est une bière. Hein,
ouais, c'est une bière, voilà, trappiste belge.
Oui.
Et c'est moi qui ne travaille pas dans le même atelier, donc qui vais commencer le découpage de la séquence, donc c'est 4-5 pages, avec un premier pré-crayonné. Et puis on en discute, je ramène les pages chez lui, on en discute, il calibre les bulles, parce que c'est important avant de démarrer le dessin vraiment plus approfondi. Il démarre le crayonné, je continue le découpage, je récupère des pages de crayonné, je les termine ou je les ramène, ça dépend de la difficulté ou les choses que je ne suis pas arrivé à faire, je refile le bébé à Eric et s'il n'y arrive pas, on change d'idée.
Ah oui, d'accord. Donc en fait, vous vous déplacez beaucoup, vous n'avez jamais eu l'idée de vous réunir à un endroit, de fonder votre propre atelier et travailler en permanence dans la même pièce.
On habite à 50 km l'un de l'autre, donc voilà, c'est ça plus facile.
Ouais.
Et puis je ne sais pas si travailler tous les deux dans la même pièce, il n'y aura pas cette découverte. C'est très agréable toutes les semaines d'avoir la page qui a bougé.
Alors, et donc les couleurs.
Et alors les couleurs, c'est moi.
Mais c'est vous, Guy Rêve.
Ça se fait en finale, parce qu'une fois que tout est crayonné, il faut tout redessiner sur papier aquarelle, parce que papier aquarelle n'est pas papier qui supporte le crayonné. Et puis à ce moment-là, je fais la mise en couleur, parce que c'est de l'aquarelle, et l'aquarelle, ça se travaille frais.
Donc, mais alors là, pour le coup, donc j'ai une double page devant moi. Qui a réalisé le crayonné sur cette double page-là ? Tous les deux. Donc il y a eu un échange, comme ce que vous venez de nous décrire. Et ensuite, vous, donc Guy Rêve, vous. Vous mettez les couleurs,
à
l'aquarelle.
Oui.
Alors, décrivez-nous justement comment est-ce que vous avez dessiné, colorisé l'atmosphère de Kinshasa. Et notamment, ce qui m'intéresse, c'est votre verre. Ou vos verres, parce qu'il y a plusieurs nuances de
verre. Que c'est, oui, mais ça, c'est d'après document d'abord. Et puis, c'est des verres tropicaux, donc c'est des verres plus vifs. Et puis, ce n'est pas tellement une question de couleur, c'est une question de lumière. La lumière tropicale est plus dure, donc les ombres sont plus marquées, les blancs sont plus marqués. Et j'ai travaillé là-dessus, moi j'ai travaillé sur la lumière plus que sur la couleur. Ce qui m'intéresse, c'est la lumière. Donc, partir de là, le reste, c'est du feeling. Et puis, j'avais des documents. Eric est allé fréquemment à Kinshasa, donc il m'avait ramené quand même pas mal de documents et qui m'a permis de pour l'ambiance. Quoi.
Oui, parce que dans le cahier graphique, on découvre des scènes qui se passent justement à Kinshasa. Alors, on parlait de l'Orval tout à l'heure, visiblement, c'est plutôt la Primus. Hein.
C'est la Skol ou la Primus. Moi, je suis Primus, pour excuser. Voilà, pour ceux qui sont Skol. Voilà, moi c'est Primus.
Voilà, il y a des dessins de, il y a des scènes de rue dans ce dans ce cahier graphique, couleur aussi. Donc là, vous y êtes allés ensemble tous les deux. C'est plutôt votre.
Non, moi je suis jamais allé à Kinshasa.
Non, c'est plutôt
vous
moi.
Guiref, c'est jamais allé à Kinshasa, mais c'est plutôt vous, donc avec votre compagne congolaise.
Elle, ça fait un moment qu'elle est plus allée, mais moi j'y suis allé pour des raisons. Je suis allé pour la Croix-Rouge, pour travailler avec les dessinateurs congolais, qui sont des amis.
Oui.
On a fait des
très
albums.
Très vivace la scène.
Oui, et
très scène congolaise.
Et très fort avec. Que soit bon ici, il vit en Europe, mais c'est Barli Barouti qui est un des grands, Pat Massioni qui vit à Paris, enfin c'est des amis, enfin il y en a plusieurs quoi, il y en a pas mal, Simba, Cash, Tembo, enfin bon ça c'est les grands, et puis il y a tous les jeunes qui sont derrière, Pat, il y a Almatin, enfin je pourrais les citer tous, hein, mais bon ils sont là, et puis il y en a certainement que maintenant je connais moins, puis il y a des jeunes filles aussi qui sont pas mal, qui travaillent. Donc voilà. Non, mais c'est
important pour vous d'aller sur place et de pas uniquement travailler sur documents, puisque il parle beaucoup de photos, hein, Guiref, depuis quand.
Kinshasa, c'est pas d'un accès facile.
Oui.
Donc chaque fois qu'on a été invité, il y avait qu'une invitation pour deux, pour un, pas pour les deux.
Ouais.
Et j'ai laissé la place à Eric. Il a quand même de la famille là-bas, donc c'était pas à moi d'aller prendre la place d'Eric à Kin.
Mais indépendamment de ça, avec Guy, c'est parce que je sais que j'écris quand j'écris les scènes. Souvent, quand je veux mettre une ambiance, comme j'ai gardé le texte là où on en parle et tout.
Oui.
Quand je parle du matin, quand je parle le vent dans les palmes, etc. Je mets des ambiances. Et Guy le fait. Je me souviens bien la première fois, on avait fait un album qui s'appelle Lettres d'outre-mer, et c'était la Guadeloupe. Moi, j'étais allé. Guy n'était pas encore allé. Il est allé après. Mais j'avais été saisi parce que j'avais décrit une soirée en Guadeloupe. Il y a une lumière particulière quand le soir tombe en Guadeloupe. Il y a une lumière orangée qui se reflète avec les nuages et qui donne vraiment une espèce de voile orangée sur tout. Et j'avais décrit cette ambiance-là. Et alors, il me met, mais c'était impressionnant parce que j'avais pas de photos. J'avais des vues donc de l'endroit où j'étais allé, donc un repérage. Mais en plein jour, je décris l'ambiance et il me met exactement l'ambiance.
Ouais, donc à partir de vos mots, il trouve l'ambiance qui arrive à décalquer l'ambiance de vos mots.
Complètement,
de cette
façon. Oui. De ce point de vue-là, il y a. Ouais,
moi, j'ai été frappé dans les scènes quinoises aussi par le contraste des couleurs entre le bleu, parce qu'il y a beaucoup de bleu, en particulier la piscine de l'hôtel, et le vert. Quoi. C'est de ce contraste-là, entre ces deux teintes-là, que naît justement cet effet de luminosité qu'on évoquait tout à l'heure.
C'est le jeu intéressant de la couleur. Hein. C'est amener les contrastes, et ça a amené parfois des ruptures aussi. Tu vois, parce que ça peut aussi amener renforcer une scène ou déforcer une scène. Il faut jouer avec ça. Et je n'ai pas besoin d'être réaliste. Je fais de la BD. Donc, je peux me permettre, moi, d'avoir des effets colorés qui ne seront pas dans le réel. Quoi.
Oui, et des effets poétiques, quoi, disons-le. N'ayons pas peur des mots, des effets poétiques à l'intérieur d'un récit réaliste.
C'est l'intérêt de la BD.
Bon, il y a des scènes en noir et blanc aussi, quand même. Pourquoi pas tellement à Kinshasa, pour le coup. Hein. Plutôt côté New York.
C'était les flashbacks, et c'était pour vraiment décaler le flashback de la réalité. Quoi.
Ouais, et par exemple, parmi ces scènes, il y en a une que notre réalisateur Nicolas Benita a mis en onde. Elle commence tout en bas de la page 61. Elle se passe donc à New York. Et à ce moment-là, la narratrice, c'est Liberty. Mais la scène est construite autour du personnage de Mike, qu'on évoquait tout à l'heure.
Les relations entre Mike et ma mère étaient ainsi constituées de temps morts, entrecoupés d'explosions volcaniques violentes. Ma mère avait grandi dans un milieu protégé plutôt aisé. Elle avait été scolarisée en pleine période d'authenticité instituée par le général Mobutu. Elle avait été nourrie de fierté nationale africaine. Mike, quant à lui, avait connu les brimades d'un apartheid de fait. Citoyen de seconde zone dans son propre pays, il avait espéré trouver une forme de reconnaissance au sein de l'armée. Mais l'expérience vietnamienne le rendit encore plus amer. À son retour, il adhéra au discours révolutionnaire des Black Panthers et au programme en 10 points qui appelait à la coalition populaire contre le racisme et l'exploitation capitaliste.
Attention, Jordana, tu vas renverser ton assiette.
Et là, le gamin à ta droite.
Allez, les enfants. Ceux qui ont fini peuvent déjà rejoindre la cour pour se mettre en rang. À demain, Mike. Mike, attends-moi. Tu marches toujours aussi vite?
Une mauvaise habitude. Prise à l'armée.
Le Vietnam? Mike, je voulais te dire que nous sommes contents de ton travail, de l'implication que tu mets dans le programme.
Il suffit de les voir dévorer leur petit déjeuner pour comprendre l'utilité de cette action.
On nourrit des centaines d'enfants qui, sans cela, iraient à l'école le ventre vide. Nous en habillons et soignons certains. Nous sommes utiles.
Ça, c'est sûr.
Reste un problème à régler.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Le parti combat l'usage de la drogue, Mike.
Et alors?
Comment peux-tu adhérer au parti et ne pas respecter les règles établies par le parti? Mike, le FBI nous surveille. Nous devons être légalement irréprochables. Nous savons que la plupart des frères qui reviennent du Vietnam connaissent des problèmes d'addiction à l'alcool et aux drogues. Nous avons des programmes de désintoxication. Tu dois t'y inscrire.
Je dois?
Oui, tu dois.
Alors moi, je trouve très intéressant ce dialogue parce que, mine de rien, il y a énormément d'informations sur le contexte historique de l'époque. Et c'est vrai que le destin personnel de Mike croise ce fameux contexte politique, le combat pour les droits civiques dans l'atmosphère de ségrégation. On est dans une scène, en fait, de walk and talk, comme disent les Américains, en particulier dans les séries, hein, une technique de storytelling assez éprouvée. En fait, les personnages parlent en marchant, ce qui permet justement de donner beaucoup d'informations et d'ancrer les personnages dans la réalité, dans un décor aussi très, très précis. Et ce décor-là, dans cette partie-là de l'album, c'est donc New York, alors les grands buildings avec les escaliers extérieurs, avec les voitures américaines. Vous adorez dessiner les voitures. Est-ce que je me trompe, Guirev?
J'aime, mais en même temps, c'est souvent une galère, parce que pour bien réussir une voiture, ça prend beaucoup de temps.
Oui, voilà. C'est très technique comme dessin ou...
Mais il y a un côté technique, et puis c'est un objet que les gens doivent reconnaître absolument. Donc c'est le modèle, l'époque, tout doit être parfait, et ça prend parfois beaucoup de temps.
Bon, parfois, en tout cas, il y a vraiment de très belles américaines, dans tous les sens du terme, par exemple, sur la pave 60-61, il y en a quelques-unes. Alors, il y a les grandes avenues rectilignes, il y a les panneaux de circulation que l'on reconnaît. On est vraiment complètement presque dans l'image d'Épinal de New York. Si j'ose dire, là aussi, vous avez travaillé sur photo, vous êtes allé sur place. Comment ça s'est passé?
De nouveau, la même façon. Eric est allé fréquemment sur place. Il a des amis à Harlem. Et moi, j'ai travaillé sur des photos. Mais en plus, ici, c'est l'avantage, c'est que c'est l'époque. Donc, c'est l'année 70. Là, j'avais besoin d'une documentation.
Oui, parce que dans le cahier graphique, il y a deux doubles pages absolument somptueuses, extrêmement, extrêmement colorées. Hein. Non seulement il y a des... Donc, c'est de l'aquarelle toujours?
Non, ça, c'est une peinture, c'est de l'acrylique. C'est un grand format, c'est 90 sur 1m20.
D'accord. Et donc, il y a aussi autour des cartes postales, des autocollants. Il y a aussi des petits croquis comme ça qui sont reproduits. En fait, quand vous êtes baladé à New York, vous avez un petit carnet à la main.
Oui. Il y a surtout l'appareil photo parce que dessiner, ça prend du temps. Moi, je préfère rencontrer les gens. Et ce qu'il y a, par contre, c'est vrai que tout ce qu'on met là, les rajouts, moi, je trouve que ça joue bien le côté le MoMA. Enfin, tout. Voilà. Je garde quand je vais dans un endroit, mais c'est même chose à Kine, je ramène les cartons de bière, etc., que ce soit la Skol, que ce soit la Turbo King, etc., enfin, peu importe, toutes ces bières que j'aime boire.
Oui.
Donc, voilà.
Bon, et puis il y a cette double page-là que j'ai devant. Est-ce que vous pouvez nous la décrire, Eric Warnotz? Je ne sais pas si c'est plutôt vous ou plutôt Guirev, en l'occurrence.
Guirev,
allez-y.
C'est toi avec les citernes d'eau sur la hauteur des toits, ce qui est pour moi, la vue qu'on voit de la chambre de l'hôpital où vient de naître Liberty. Et c'est New York au carré, quoi. C'est le New York que j'aime, c'est Hopper, c'est des ambiances qui, moi, me parlent. Et j'étais très content, justement, dans ce remontage, de pouvoir la mettre en pleine page, alors que sur la première version, Castellman, elle est un peu étriquée dans sa page, quoi.
Et ça donne bien pour... ça donne bien, par exemple, parce que... Tout ce côté-là, une fois qu'on y va, quoi, c'est le côté brownstone, c'est tout le côté, comme disait Guy, le côté Harlem. Moi, j'ai des amis qui habitent East Harlem. Et c'est vrai que c'est typique, quoi. Dès que tu te balades là, c'est New York, quoi.
Black or White, Michael Jackson dans VMDN sur RFI avec Guy Rêve et Eric Warnotz autour de l'album Liberty aux éditions du Lombard. Alors on en parlait tout à l'heure avec vous, Eric Warnotz, il y a aussi un personnage blanc qu'on n'a pas beaucoup évoqué mais que vous l'avez cité tout à l'heure, c'est Edouard, hein, donc ce personnage qui va avoir une brillante carrière diplomatique. Il y a Edouard et Mike, en fait ce sont les deux anges gardiens, l'ange blanc et l'ange noir en quelque sorte de Chilanda et de sa fille Liberty, deux hommes que tout oppose ou presque, et qui pourtant vont se réunir. Alors on est dans le black and white pour le coup.
Oui, c'est clair. Je pense que c'est des gens qui ont, ils ont quelque chose en eux. Moi, je crois en certaines choses, et je crois, voilà, je pense qu'il y a ça dans le cœur des hommes quand ils choisissent une voie plutôt que l'autre. Et voilà, c'est des gens habités, c'est tout. Là, c'est clair, le diplomate blanc, il a une foi, qui revendique, c'est clair, qui se rapproche de Chilanda, qui elle aussi a une foi. Et donc ça les rapproche entre autres. Mike, c'est autre chose, c'est peut-être une communauté d'esprit, on va le dire, différente.
Et c'est vrai qu'au final, l'esprit qui se dégage de l'album est plutôt optimiste, hein. Il est porté d'ailleurs par le personnage de Liberty, donc la fille de Chilanda, personnage solaire qui fait de brillantes études, qui a un charisme absolument fou. Pour le visage de Liberty, on a l'impression quand on regarde le cahier graphique, parce qu'il y a des petites photos là, comme ce que vous êtes là aussi inspiré d'un personnage réel.
Celui-là, je pense qu'il est créé. Hein, celui
le personnage central, non, il est créé. Par contre, les photos sur les côtés, c'est les filles d'Eric.
En fait, tout part de votre famille, en fait, Eric Warnotz, pour le coup.
Hein. Oui, parce que vous avez compris, c'est un album, je parle de métissage, je parle de ça. Donc, les photos, c'est des photos aussi qui ont servi dans l'album. C'est pour ça qu'on les a mis aussi, parce qu'on les retrouve dessinées. Donc, c'était le fait de montrer aussi le clin d'œil entre voilà, les documents dont on se sert. Mais j'avais ça. Et il y a des choses que je mets qui se retrouvent dedans. Donc, par exemple, un jour, j'étais avec ma fille et je l'ai placée dans l'album. Dans l'album, à un moment donné, on voit Liberty qui parle avec Mike et qui lui dit « Papa, j'aimerais bien être blanche. Noir, c'est bien, mais blanc, c'est mieux. » Moi, ma fille m'a dit ça un moment.
Elle vous a dit ça ?
Oui, parce qu'elle était scolarisée dans une école où c'était quand même en immersion anglais. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de petites métisses comme elle ou de petits garçons, voilà, comme ça. Mais je pense que les choses bougent parce que 5 ans après, sa sœur est dans la même école. Et là, sa sœur, on peut dire que c'était, on plaisantait, mais c'était un peu on disait le gang des métisses, parce qu'il y avait plus de petites métisses, parce que les choses bougent. Et qu'on a eu, entre autres, une immigration congolaise qui est arrivée avec les enfants. Et donc, on a eu plus de petits garçons et de petites filles qui venaient, qui étaient semblables à elle. Mais c'est vrai que c'est des choses qui frappent. Donc moi, ça nourrit ça nourrit chaque fois des discussions avec Guy, des rencontres. C'est de ça qu'on fait, des lectures aussi, bien sûr, et des choses qu'on a envie de dire. C'est pas des certitudes chez nous, c'est plutôt des interrogations. Là, on est plus proche de Truffaut, à qui on reprochait, oui, tu ne vous impliquez pas. Et où il avait dit, pour s'impliquer, pour avoir des idées politiques, il faut avoir des certitudes. Moi, j'ai des interrogations. Et c'est vrai que nous, c'est plutôt ça, c'est des interrogations qu'on a envie de soumettre. Au lecteur, et voir un peu comment il réagit.
Alors on sent à la fin de l'album le nouveau souffle, hein, le vent d'espoir généré par l'élection d'Obama. Depuis, il y a eu quand même beaucoup de choses. Il y a eu Black Lives Matter, par exemple. Mm-hmm. Vous y faisiez allusion vous-même tout à l'heure. Est-ce que vous referiez la même fin aujourd'hui, ou est-ce que vous n'avez pas eu envie d'ailleurs d'inventer une autre fin, de continuer le récit, de rajouter 2 ou 3 planches?
Personnellement, non. Comme je viens de dire, je pense que les choses bougent. C'est lent. J'aimerais bien que la prochaine fois, si jamais il devait avoir un président de nouveau comme Obama, qu'on ne dise pas ici, en tout cas en Europe, qu'on ne dise pas que c'est un président noir. Parce que moi, ça m'a frappé que les journalistes européens embrayent sur les Américains. Je comprends que les Américains disent que c'est un président noir. Pour eux, c'est un noir, puisqu'il suffit d'un peu de sang noir. Mais nous, on aurait quand même pu dire que non, c'était un président half and half, black and white. Donc, je veux dire, puisque c'est ce qu'il est. Donc voilà. Donc je pense que les choses bougent quand même. C'est lent, mais moi je pense que finalement quand même les choses bougent positivement. Il faut du temps et bon, il faut toujours des rappels de la bêtise humaine. Ça changera pas non plus. Hein.
Cette question des États-Unis, cette question du racisme et de la ségrégation, on la retrouve aussi dans l'autre album qui est dans votre actualité, messieurs, le dernier tome de la série Purple Heart, qui nous emmène dans le sud des États-Unis, le sud du coucou. Et des bayous, avec là encore des verts absolument à couper le souffle. Et encore toujours d'ailleurs souvent cet effet de contraste entre les verts et les bleus. ça, c'est vraiment ça marche très bien. Alors il y a une pastille sur la couverture, c'est marqué dernière enquête de Flanagan. Ça veut dire que la série est terminée là, le point final il est mis.
Oui et non, c'est-à-dire que c'est la fin de la première série, on va dire, parce qu'on est parti sur un nouveau récit en 3 albums, donc minimum 3 ans et demi de travail. Donc c'est pour ne pas non plus avoir l'impression qu'on laisse tomber, il vaut peut-être mieux marquer le fait que c'est la fin du premier cycle. Ça aurait été peut-être plus... Est-ce que ça se dit, fin de cycle,
oui.
Je ne sais pas.
Oui. Mais ça voilà. Veut dire que c'est un premier cycle, ça laisse entendre qu'il y en a
ben voilà, mais dans notre esprit, on reprendrait bien après, mais justement en faisant le saut des années 60. Ici, l'album se termine en 56, on pourrait très bien redémarrer en 60 avec Cuba, Kennedy, le Vietnam, via d'autres thématiques. Mmh. Voilà.
Eh bien, l'avenir le dira, on va suivre ça de très près. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir fait une petite escale dans le studio de RFI ici à Paris. Purple Heart, le nouveau tome Jambalaya Blues et Liberty, signé Warnuts et Rêve, à découvrir donc aux éditions du Lombard dans une poignée de secondes, le journal sur RFI, et vous m'en direz des nouvelles.
Pour nous faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.